En esprit et en vérité 09, le culte et le chant. Dans l'Écriture, le chant fait partie de la louange et le Nouveau Testament parle de la louange comme constituant une offrande, ou un sacrifice, qu'on offre à Dieu, par lui, Christ, offrons sans cesse à Dieu un sacrifice de louange, c'est-à-dire le fruit de lèvres qui confesse son nom, car c'est à de tels sacrifices que Dieu prend plaisir, 2, Hébreux 13h15, 16, d'une manière générale, le peuple de Dieu est appelé à louer Dieu en confessant son nom, confère Romains 10h10, c'est en confessant de la bouche qu'on parvient au salut, 3. Étant une confession de foi personnelle, la louange chantée ne peut être que l'expression de la voix humaine ou angélique. Le but de la louange, parler ou chanter, est de rendre gloire au caractère et aux œuvres de Dieu. D'ailleurs, le peuple chrétien a été acquis pour cela, afin que vous annonciez les vertus de celui qui vous a appelé des ténèbres à son admirable lumière. 1 Pierre 2, 9, 1, la fonction de la louange dans l'assemblée chrétienne que la parole de Christ habite parmi vous abondamment, instruisez-vous et exhortez-vous les uns les autres. La louange est une notion plus vaste, elle comprend le chant, pour être précis il faudrait parler de louange chantée confère 2 Chroniques 7, 6. 2. Cette exhortation est faite au pluriel car la louange est souvent une expression de foi collective. L'offrande ainsi offerte l'est à Dieu, et non aux hommes, confère Matthieu 6, 1 SS. En outre, cette offrande est le fruit de lèvres humaines, car elle est d'abord une confession de foi personnelle. 3. Dans l'Ancien Testament, l'action de louer est décrite par deux verbes, alal et yada, ce dernier verbe signifie confesser de vive voix, voir 1 Chronique 16h14. 23, 5, psaume 22h22 et Genèse 29, 35, psaume 7h17. 55, de toute sagesse, par des psaumes, par des hymnes, par des cantiques spirituels, chantant à Dieu dans vos cœurs sous l'inspiration de la grâce, Colossiens. 3h16, soyez au contraire remplis de l'esprit, entretenez-vous par des psaumes, par des hymnes, et par des cantiques spirituels, chantant et célébrant de tout votre cœur les louanges du Seigneur. Rendez continuellement grâce. Éphésiens 5h19, 20, 4. La fonction du chant dans l'assemblée est donc que les disciples aient l'occasion de s'exhorter, de s'instruire, de se parler mutuellement, de rendre grâce à Dieu et de le célébrer. Le chant constitue donc à la fois une instruction, une célébration et une expression de reconnaissance. Il est évident que ce sont les paroles contenues dans les chants qui ont la propriété d'instruire, d'exhorter, d'exprimer la reconnaissance, de célébrer. La forme musicale pourra donc varier, il est question de psaumes, d'hymnes et de cantiques spirituels qui représentent différentes formes de chants, mais les paroles contenues dans le chant doivent constituer une louange à Dieu lui-même. 2. Le chant et les variations dans la forme musicale. Le Nouveau Testament évoque différentes catégories de chants, les psaumes, les hymnes et les cantiques. A. Les psaumes, gr. Psalo et psalmo, la version seconde rend le verbe psalo par chanter, c'est pourquoi je te louerai parmi les nations, et je chanterai, psalo, à la gloire de ton nom. Romains 15, 9 et psaume 18h50, je chanterai, psalo, par l'esprit, mais je chanterai aussi avec l'intelligence. 1. Corinthiens 14h15, 5-4. Dans ce texte, les participes montrent que c'est en chantant ainsi qu'on est rempli de l'esprit. Ces participes ne ressortent pas dans la traduction de second, vous entretenant par des psaumes, par des hymnes et par des cantiques spirituels, gr. Lalunt, c'est-à-dire vous parlant mutuellement par des psaumes. Chantant et célébrant de tout votre cœur le Seigneur, gr. Adont kai psalont, rendant grâce, eucharistunt, l'action de rendre grâce est ici associée au chant. Le chant peut donc être une expression de prière à Dieu. 5. E chanterait par l'esprit. C'est avec raison que second n'a pas écrit esprit avec un E majuscule. Si l'on tient compte du verset 14, car si je prie en langue, mon esprit est en prière, mais mon intelligence demeure stérile. On doit en conclure que Paul ne parle pas ici du Saint-Esprit, mais de l'esprit de celui qui chante. Le disciple doit chanter à la fois avec son esprit et avec son intelligence, afin que son chant soit intelligible et contribue à l'édification, confère à Corinthiens 14h16. 56. Chantant et célébrant, psalo, de tout votre cœur. Éphésiens 5h19. Si quelqu'un est-il dans la joie, qu'il chante des cantiques, psalo, Jacques 5h13, c'est à l'origine le grec psalo ne signifia pas chanter, mais toucher, pincer, tirer. En grec classique, et par l'usage, ce verbe vinta signifiait jouer d'un instrument, puis chanter. Dans le Nouveau Testament grec, le verbe psalo a seulement le sens de chanter, ainsi qu'en grec moderne. 8b, les hymnes, hymno et hymno, après avoir chanté des cantiques, hymno, ils se rendirent à la montagne des Oliviers. Matthieu, 26, 30, confère. Marc 14h26, Vers le milieu de la nuit, Paul et Silas priaient et chantaient des louanges, hymnaux, au Seigneur. Actes 16h25, j'annoncerai ton nom à mes frères. Je te célébrerai, hymnaux, au milieu de l'assemblée. Hébreux 2h12, 9 Le verbe hymno signifie dire, dire en répétant, réciter en chantant. Ce verbe est employé en grec classique pour les chants héroïques de la Grèce ancienne, Thucydide, les cantiques, odes. Le mot est souvent employé dans l'Apocalypse de Jean. Ce mot décrit un chant lyrique et s'applique souvent aux chants profanes, notamment dans le théâtre grec. En Éphésiens 5h19 et Colossiens 3h16, Paul précise que les cantiques chrétiens doivent être des cantiques spirituels, odes et pneumatiques et point 11.6 de tout votre cœur, en taïkardiae, ici le datif peut indiquer le lieu, la manière ou l'instrument. Nous pensons qu'avec le verbe psalo il peut s'agir du datif instrumental, le cœur est l'instrument qui accompagne le chant chrétien. Ce sont là tous les passages où l'on trouve psalo dans le Nouveau Testament. 8. Le dictionnaire grec-français par Bailly définit ainsi le verbe psalo, tirer par secousse, tirer brin à brin, poil à poil, arracher, d'où faire vibrer, toucher d'un instrument. En grec moderne psalo ne signifie plus que chanter, voir dictionnaire grec-français publié à Athènes par Astyr Papadimitriou. Dans l'église orthodoxe, où l'on chante, psalo, l'instrument de musique n'est jamais employé. 9. Ce sont là tous les passages du Nouveau Testament où le verbe hymno est utilisé, Éphésiens 5h19 et Colossiens 3h16 ont le substantif hymno. 10. Dictionnaires grecs de Liddell et Scott, voire Bailly, chanter un air grave, religieux ou héroïque. 11. L'Église peut donc chanter des chants profanes du moment qu'on leur donne un contenu spirituel. 57. 3. La place de part dans le chant chrétien. La fonction propre de la louange chrétienne n'est pas d'ordre esthétique ou artistique. Notons bien que nous parlons de la louange chrétienne, c'est-à-dire de la louange du peuple de Dieu sous la Nouvelle Alliance. En effet, et par contraste, la louange, et même l'ensemble du culte et des objets du culte, sous l'Ancien Testament comportait une exigence esthétique tant au niveau du lieu que du vêtement ou de la musique. Le culte, et particulièrement la louange, sous l'Ancienne Alliance résonnait du son des trompettes, étalait une splendeur du vêtement, du son, de la couleur probablement inégalée. En fait, l'importance de l'art, jusque dans les moindres détails du geste ou de la parole, est évidente à travers toutes les religions de l'Antiquité. À cet égard, la religion d'Israël ressemblait aux religions païennes. Mais cela ne devrait pas surprendre puisque l'Ancienne Alliance, avec son culte, ne fut donnée que provisoirement, jusqu'à l'établissement d'une nouvelle alliance, confère Galates 3h19-23, 2 Corinthiens 3, Hébreux 8h13, et dans un contexte d'ignorance spirituelle, confère Actes 17h30. 14h16, 17, Jean 1h17. Nous apprenons par le Christ et ses apôtres que la nouvelle alliance surpasse en gloire l'ancienne alliance, confère 2 Corinthiens 3h10. Jésus annonce un temps où la façon d'adorer Dieu sera modifiée, Jean 4h23. La nouvelle alliance est donc supérieure en gloire. Mais si nous envisageons cette supériorité comme ayant trait, notamment, à l'aspect extérieur du culte, c'est que nous n'avons pas lu attentivement le Nouveau Testament. Si nous voulons rivaliser avec Israël sous le rapport du vêtement sacerdotal ou de l'exécution musicale des Lévites, nous aurons fort à faire. Et si, au demeurant, nous réussissons à édifier des temples plus glorieux que celui de Salomon, à exécuter une musique plus grandiose ou à fabriquer des ustensiles plus précieux, qu'aurons-nous gagné, au juste, dans la qualité du culte? D'ailleurs, il en va ainsi de toute expression de foi, à commencer par la prédication de la parole de Dieu. La valeur et l'efficacité de la prédication ne sont pas déterminées, aux yeux de Dieu, par la facilité d'élocution, la beauté physique ou les diplômes du prédicateur. Dieu, en tout cas, n'a pas toujours choisi ses serviteurs selon ses critères. Moïse disait, « Ah, Seigneur, je ne suis pas un homme qui ait la parole facile, et ce n'est d'hier, ni d'avant-hier, ni même depuis que tu parles à ton serviteur, car j'ai la bouche et la langue embarrassées. » Exode 4h10. Jérémie se trouvait dans le même cas. Ah, Seigneur, 58, Éternel. Voici, je ne sais point parler, car je suis un enfant. Jérémie 4h10, l'apôtre Paul était, selon les critères de son temps, loin d'être un bon orateur, ou même un bon écrivain. Encore une fois, Dieu n'a pas choisi selon des normes humaines. La prédication de Paul ne consistait pas en des discours persuasifs de la sagesse, confère à Corinthiens 2. 1 à 13.12 L'apôtre se reconnaissait un ignorant sous le rapport du langage, il ne peut se comparer aux sophistes et rhéteurs de son temps. 2 Corinthiens 11, 6, l'on disait de lui, sa parole est méprisable, 2 Corinthiens 10h11. Bien entendu, rien n'empêche qu'un prédicateur soit éloquent si tel est son don, il y a le cas d'Apollo, Acte 18h24. Rien n'empêche qu'un prédicateur soit titulaire de diplômes universitaires. Du moment qu'on se souvient que cela n'est pas déterminant pour Dieu. Une vie conforme à la justice divine et la connaissance des Écritures sont les qualifications essentielles d'un prédicateur. Pour revenir au chant, il est clair qu'aux yeux de Dieu la valeur spirituelle du chant ne réside pas dans la qualité de l'exécution musicale. Si des disciples ont des dons musicaux, ils peuvent les utiliser dans les limites autorisées par Dieu sans, pour autant, leur attribuer une valeur spirituelle. Nous pourrions demander à un conférencier professionnel de prêcher le sermon d'un prédicateur peu éloquent, nous pourrions faire appel à des chorales professionnelles pour exécuter de grandes œuvres musicales afin de pallier à la pauvreté d'exécution de disciples peu musiciens, nous pourrions même faire appel à tout un orchestre. Mais, au juste, qu'aurions-nous gagné sur le plan spirituel? Car n'en déplaise aux conférenciers, musiciens professionnels ou amateurs d'art, la prédication de l'Évangile et la louange à Dieu ne sont pas l'affaire de quelques professionnels ou artistes. Il ne faut jamais perdre de vue cette vérité fondamentale, et l'Éternel ne considère pas ce que l'homme considère, l'homme regarde à ce qui frappe les yeux, mais Dieu regarde au cœur. 1 Samuel 16, 7. 4. Le contenu spirituel du chant et de la louange. Si la valeur spirituelle du chant ne réside pas dans la composition ou douce, cela ne signifie nullement que Paul était ignorant de cette sagesse ou qu'il était un homme inculte. 59. Dans l'exécution musicale, où donc réside T13 la valeur spirituelle du chant réside, selon le Nouveau Testament, à la fois dans les paroles du chant et dans la disposition de celui qui chante. 14. Les paroles ont une valeur spirituelle de par les vérités spirituelles qu'elles communiquent et qui ont leur source dans la parole de Dieu. Confère à Corinthiens 2, 9 à 14.15. Le chant constitue une véritable louange, c'est-à-dire une confession de foi, Hébreux Eya, dans la mesure où les paroles se réfèrent à la parole de Dieu, unique source de foi, confère Romains 10h16, 17. Par conséquent, le Nouveau Testament enseigne que c'est en vertu de la parole de Christ que le chant est propre à instruire et à édifier. Si le chant reflète des opinions humaines et non la parole du Christ, il ne peut édifier spirituellement. Que la parole de Christ habite parmi vous abondamment, instruisez-vous et exhortez-vous les uns les autres en toute sagesse, par des psaumes, par des hymnes, par des cantiques spirituels, Colossiens 3h16, 16 en somme, la louange chantée doit refléter un contenu spirituel et ce contenu n'existe qu'en fonction de paroles qui ont leur source dans la parole de Dieu. Il y a une seconde valeur spirituelle au chant. Celle-ci est déterminée par la disposition spirituelle de ceux qui chantent. Lorsqu'on adore Dieu par le chant, il faut que le cœur soit inspiré par la grâce et qu'il participe activement à l'acte purement physique du chant, chantant à Dieu dans vos cœurs, sous l'inspiration de la grâce. 13. D'une manière générale, l'enseignement du Christ et du Nouveau Testament n'accorde aucune valeur spirituelle à ce qu'on appelle l'art chrétien. À travers l'histoire, l'art chrétien est souvent un substitut à la justice, à l'amour, à la sainteté et à la véritable piété. Confère un Jean 2h15-17. Notez le contraste entre la convoitise des yeux et l'orgueil de la vie d'une part et celui qui fait la volonté de Dieu d'autre part. 14. On pourrait dire que la valeur spirituelle du chant est à la fois objective et subjective, de même que la foi, confère Romains 1h16, Jude V 3. 15. Les chants, tout comme la prédication, peuvent communiquer les vérités de la parole de Dieu d'une manière explicite, par la lecture de la Bible ou des citations prises de la Bible, ou d'une manière implicite, par un contenu qui reste fidèle au contenu biblique. 16. Dans le texte grec, les participes indiquent, lorsqu'ils suivent l'impératif, que la parole de Christ habite parmi vous. Le moyen d'accomplir l'impératif, c'est en s'instruisant et en s'exhortant par des psaumes, par des hymnes et par des cantiques spirituels que les disciples permettent à la parole de Christ d'habiter parmi eux. Confère l'impératif suivi du participe en Matthieu 18h19, faites des disciples, les baptisant. Confère note 4. 60. Colossiens 3h16. Chantant et célébrant de tout votre cœur les louanges du Seigneur. Éphésiens 5h19. Bien qu'il soit avantageux, sur le plan spirituel, d'avoir assimilé les vérités divines et de pouvoir les communiquer de mémoire, on a généralement recours à des livres de cantiques pour assister la mémoire. Si les disciples utilisent de tels livres, ils doivent veiller à ce que les paroles soient conformes à l'enseignement de la parole de Dieu, confère Acte 17h11. Comme ils le feraient, d'ailleurs, pour n'importe quelle forme d'enseignement qui prétendrait se référer aux Écritures. 5. La place de l'instrument de musique dans le chant chrétien. L'instrument de musique ne peut avoir aucune place dans la louange du peuple chrétien et ce pour les raisons suivantes. A. L'instrument ne peut exprimer un contenu spirituel. B. L'instrument de musique ne peut édifier spirituellement. C. L'usage de l'instrument de musique dans la louange constitue un retour au culte qui se pratiquait par Israël sous l'ancienne alliance. D'abord, L'instrument de musique, quoi qu'il soit, ne peut communiquer un contenu spirituel. Cela ressort des remarques faites précédemment sur le contenu spirituel du chant, dit-on, entendons-nous bien, l'instrument peut, cependant, produire des sentiments. Mais il ne faut jamais confondre la spiritualité et la sentimentalité. À cet égard, l'instrument de musique est comparable au don des langues, il communique des sons inintelligibles, donc il n'édifie pas spirituellement l'assemblée, 1 Corinthiens 14h10-15. Étant muet sur un contenu spirituel, l'instrument de musique ne peut ni instruire, ni édifier, ni exhorter. Pour l'apôtre Paul, il vaut mieux ne pas prier, ne pas chanter, si on ne peut le faire avec intelligence, 1 Corinthiens 14h15. Parce qu'il ne communiquait pas des vérités intelligibles, le don des langues était dépourvu de la capacité d'édifier l'assemblée, 1 Corinthiens 14. Il en va certainement de même pour un instrument de musique ou tout un orchestre. 17 Confère. Je considère la musique, par essence, comme impuissante à exprimer quoi que ce soit. Stravinsky dans le Dictionnaire de la musique Microcosme, édition du Seuil, page 5,1961. Des Baron Boehm, je ne crois pas à la moralité de la musique. Il suffit de connaître l'histoire de la musique pour trouver tous les exemples de contradictions entre le caractère des compositeurs et la musique qu'ils ont créée. À commencer par Wagner. La musique est ce qu'elle représente pour chacun, l'Express, 12 septembre 1977. 61, alors, quelle est l'utilité de l'instrument de musique? La seule réponse que l'on puisse fournir à cette question est d'ordre artistique. L'instrument de musique n'édifie pas, mais, dira-t-on, il ne constitue pas un acte de culte, d'adoration, il n'est qu'un accompagnement à l'adoration. Par conséquent, l'instrument de musique n'a aucune conséquence sur le plan spirituel. Et c'est ainsi qu'on explique l'usage de l'instrument de musique dans le culte de l'Ancien Testament. Dès la plus haute antiquité, les instruments de musique sont utilisés dans les cultes païens, notamment par les peuples de Canaan et des pays voisins d'Israël. Les Israélites n'échappent pas à la règle. Il y a pourtant une différence avec Israël, l'usage des instruments de musique dans le culte fut réglementé d'une manière précise par Dieu. En d'autres termes, l'emploi des instruments de musique dans le culte de l'Ancienne Alliance n'est pas une initiative personnelle des Israélites. D'ailleurs, il n'est rien, dans le culte de l'Ancien Testament, qui ne soit réglementé. Les Israélites ne se seraient jamais permis d'introduire, de par leur seule initiative, un seul élément nouveau dans le culte. Pendant la captivité, plus tard, après la destruction du Temple, 70 après J.-C., le peuple d'Israël n'a pas cru bon de réintroduire les instruments de musique dans le culte parce qu'il comprenait qu'une telle pratique était directement liée au Temple et au sacerdoce. Les apôtres n'ont pas non plus rétabli l'emploi des instruments de musique dans la louange chrétienne. De même qu'ils n'ont pas rétabli l'usage de l'encens, des sacrifices, des vêtements sacerdotaux ou des ustensiles liés au culte de l'Ancienne Alliance. En effet, il y a eu un changement d'alliance et, par conséquent, une modification du culte, confère. Hébreux 9, 1,2, 9h10, 11, 10, 1, Philippiens 3, 9. C'est par David que Dieu réglementa l'usage des instruments de musique dans le culte du peuple d'Israël, 18 et David dit aux chefs des Lévites de disposer leurs frères les chantres avec des instruments de musique, des luths, des harpes, des cymbales, qu'ils devaient faire retentir des sons éclatants en signe de réjouissance, 1 Chronique 15h16, David et les chefs de l'armée mirent à part pour le service ceux des fils d'Ésaph, d'Aiman et de Jedutun qui 18 le fait que cet usage n'ait pas été réglementé par Moïse lui-même ne change rien, à moins de supposer, contre toute évidence, que Moïse était le seul prophète inspiré de l'Ancien Testament. 62, prophétisait en s'accompagnant de la harpe, du luth et des cymbales, tout cela était sous la direction de leur père pour le chant de la maison de l'Éternel, et avait des cymbales, des luths et des harpes pour le service de la maison de Dieu. 1 Chronique 25, 1 SS, qu'il y en ait 24 000 pour veiller aux offices de la maison de l'Éternel, 6 000 comme magistrats et juges, 4 000 comme portiers, et 4 000 chargés de louer l'Éternel avec les instruments que j'ai faits pour le célébrer. 1 Chronique 23, 5, 6, les sacrificateurs se tenaient à leur poste, et les Lévites aussi avec les instruments faisant l'honneur de l'Éternel, par le roi David pour le chant des louanges de l'Éternel, lorsque David les chargea de célébrer l'Éternel, en disant, « Car sa miséricorde dure à toujours. » Les sacrificateurs sonnaient des trompettes vis-à-vis d'eux. 2 Chroniques 7, 6, il établit dans leurs fonctions, telles que les avait réglées David, son père, les classes de sacrificateurs selon leur office, les Lévites selon leur charge, consistant à célébrer l'Éternel et à faire jour après jour le service en présence des sacrificateurs, car ainsi l'avait ordonné David, homme de Dieu. On ne s'écarta point de l'ordre du roi pour les sacrificateurs et les lévites, ni pour aucune autre chose. 2 Chroniques 8:14, il fit placer les lévites dans la maison de l'Éternel avec des cymbales, des luttes, des harpes, selon l'ordre de David, de Gad le voyant du roi, et de Nathan le prophète, car c'était un ordre de l'Éternel, transmis par ses prophètes. Les lévites prirent place avec les instruments de David, et les sacrificateurs avec les trompettes, ainsi fut rétabli le service de la maison de l'Éternel. 2 Chroniques 29:25-26-30, lorsque les ouvriers posèrent les fondements du temple de l'Éternel, on fit assister les sacrificateurs en costume, avec les trompettes, et les lévites, fils d'Azaph, d'après les ordonnances de David, roi d'Israël. Esdras 3:10, voyez aussi Tsaï 38:20, Néhémie 10:36, Psaume 150. 2 Chroniques 5:11-13. Une chose est donc certaine, sous l'ancienne alliance l'usage des 63 instruments de musique dans le culte est réglementé. En outre, cet usage est circonscrit à l'accompagnement de la louange dans le temple, accompagnement qui est la prérogative des Lévites. Au temps de Jésus, cet usage existait toujours dans le temple 19, mais aucun Israélite ne se serait permis de jouer d'une trompette dans une synagogue. Pourquoi ? Parce qu'il n'existait aucune autorité divine pour une telle pratique. Si nous voulons, aujourd'hui, sous la nouvelle alliance, adorer Dieu, le louer, en nous accompagnant d'instruments de musique, nous ne pouvons recourir qu'à l'autorité de l'ancienne alliance, et encore, avec certaines restrictions, il n'est pas question d'orgue ou de piano sous l'ancienne alliance. Et dans ce cas, on pourrait tout aussi bien faire appel à l'ancienne alliance pour établir un sacerdoce dans l'Église, pour avoir recours à l'encens, au sacrifice ou au rite de purification lors des cultes, pour retourner aux fêtes religieuses d'Israël ou aux restrictions alimentaires. Le rétablissement, dans le culte chrétien, de tous ces éléments de l'ancienne alliance constitue un retour aux rudiments de la religion et non un progrès dans la spiritualité. Ce n'est donc pas sans raison qu'ils sont absents de la nouvelle alliance, Galates 4:8-11, Hébreux 6:1-9, 1 Thessaloniciens 5:10-11, Midi 25:29-13, 8-10. C'est parce qu'il différencie un aspect du culte sous les deux alliances, la louange, que les instruments de musique ont une telle importance. Il s'agit bien d'une question d'autorité religieuse et non d'une question simplement culturelle, car même à Jérusalem, sur le sol de la Palestine ou dans le milieu israélite de la diaspora, l'Église primitive n'utilisait pas d'instruments de musique, comme l'écrivait Adolphe Monod, la musique instrumentale ne vint que plus tard, 29 ch. Guignobert, Le Monde juif vers le temps de Jésus, page 81, édition Albin Michel, Paris, 1950. 20 à Monod, explication de l'épître de Paul aux Éphésiens, Paris, Lib. Ch. Meyruet, 1867, page 353, on introduisit des instruments de musique dans les églises seulement à partir du 7e siècle, Schaffherzog Encyclopédia, tome II. Martin Luther, Jean Calvin, John Wesley, Charles Spurgeon n'admettaient pas leur emploi dans le culte. Calvin affirme qu'il s'agit là d'un retour aux ombres de la loi, commentaire du 23e psaume. Pour Spurgeon, autant prier Dieu avec des machines que de chanter Dieu avec des machines, commentaire de C. Spurgeon sur 1 Corinthiens 14:15 dans De Metropolitan Tabernacle Pulpi, London 1885, volume 23 et 29.